Place Info.
Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
Hier, c'est une adolescente de 16 ans qui est montée à la tribune des Nations Unies à New York en plein sommet pour le climat pour dénoncer ce que nous, parents, lui avons légué et laissé. On va l'écouter dans un instant. Greta Thunberg à New York.
My dreams. Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots creux. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle extinction de masse et tout ce que vous trouvez à dire, c'est parler d'argent et de contes de fées sur la croissance économique. Comment osez-vous ?
Est-ce qu'elle a raison de secouer les chefs d'État ?
Bien sûr, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire et l'ensemble des critiques qui lui sont adressées sont parfaitement déplacées. Parce que, au fond, si certains estiment nécessaire de la critiquer, c'est qu'ils sont mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise parce qu'elle dit la vérité. Elle dit la vérité avec sa jeunesse. C'est un personnage frêle, apparemment, hein, parce qu'elle est toute jeune, toute menue. Et en fait, elle a une force d'élocution, d'authenticité, de colère qui correspond exactement à la réalité. Donc, elle relaie par une parole simple l'angoisse des scientifiques qui nous parlent depuis quand même 20 ans, l'angoisse de celles et ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Elle parle aussi pour les sans-voix, c'est-à-dire les victimes du dérèglement climatique. Elle parle pour la justice climatique. Et comme je l'exprime dans ce manifeste pour la justice climatique que j'ai écrit après la COP21, que j'ai eu l'honneur de présider, quand j'ai vu la souffrance des peuples dont les territoires disparaissent, par exemple les États insulaires, dont personne ne s'occupe, les peuples d'Afrique qui meurent sous la sécheresse et la déforestation, notamment les femmes, elle la pousse ce cri de colère qui a réveillé l'Assemblée générale des Nations Unies.
Elle est plus audible aujourd'hui que les climatologues, qui, vous l'avez rappelé, alertent depuis des décennies, plus audible aussi que les chefs d'État.
Bien sûr, elle est plus audible. Et quand on lui reproche d'être uniquement dans un registre d'inquiétude ou de sonnette d'alarme qui est tirée, qu'elle se met pas autour d'une table pour apporter des solutions, c'est pas son rôle d'apporter des solutions. C'est le rôle des dirigeants du monde entier, de tous ceux qui ont la capacité d'agir, les citoyens, les entreprises, les banques, les fonds de placement, etc. Tous ceux qui ont la capacité d'agir et qui doivent entendre ce cri de désespoir. Qui est porté depuis longtemps par les États insulaires, je l'ai dit, je me souviens en décembre 2015, à la tribune des Nations Unies, les chefs d'État des pays insulaires qui disparaissaient, ils pleuraient aussi. Et donc, il y a eu de l'émotion, et puis ensuite, chacun rentre chez soi, et l'émotion disparaît. Et donc, ce qui est nouveau avec Greta Thunberg, c'est que l'émotion ne disparaît pas, puisqu'elle réussit à lever dans le monde entier des milliers de jeunes qui viennent nous demander des comptes. Et ils ont raison.
Et vous dites qu'elle a raison. Est-ce qu'elle a raison aussi lorsqu'elle annonce avec d'autres jeunes qu'elle porte plainte contre 5 États, dont la France, pour dénoncer l'inaction de la France sur l'urgence climatique?
Alors, il y a deux façons de voir cette plainte. Une façon qui consiste à se dire, finalement, c'est injuste puisque les pays les plus pollueurs, que sont les États-Unis, la Chine et l'Inde, ne font pas partie de cette plainte.
Cette plainte vise la France, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et la Turquie.
Oui, donc il faut bien comprendre pourquoi les pays les plus pollueurs, l'Europe est quand même le troisième ou quatrième continent le plus pollueur, donc c'est aussi ça qu'il faut acter.
La première façon, c'est de s'étonner. La seconde, qu'est-ce que c'est?
C'est de s'étonner, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que elle porte plainte au nom de la Convention de protection des droits de l'enfant et que les pays les plus pollueurs, les États-Unis, la Chine et l'Inde, n'ont pas ratifié la Convention des droits de l'enfant. La France l'a ratifié. Et les autres pays qui sont visés par cette plainte ont également ratifié la Convention des droits de l'enfant. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre.
Donc cette plainte, elle est légitime au regard de cette Convention des droits de l'enfant?
Oui, mais oui, parce que ça fait partie aussi de l'alerte et la France, justement, peut s'appuyer sur cette plainte pour bousculer les différents lobbies qui ne veulent pas bouger. Vous voyez, au lieu de
c'est plutôt une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron.
Mais c'est toujours, je vais vous dire, C'est toujours une bonne idée lorsqu'il y a des avant-gardes qui bousculent, qui disent des choses tellement vraies, même si ça dérange. Il faut des gens dans le domaine de l'environnement et de l'écologie. Si on ne dérange pas, on ne bouge pas. Parce que c'est très difficile d'obtenir des changements dans les comportements, d'obtenir un recul véritable de l'utilisation des énergies fossiles. Parce qu'au bout du compte, on croit que c'est difficile, que c'est compliqué. Mais non, c'est très simple. C'est très simple de lutter contre le réchauffement climatique. C'est très simple. Il faut diminuer l'utilisation des énergies fossiles. Qui utilise les énergies fossiles ? Le transport, en particulier les voitures. Pourquoi est-ce que la transition industrielle est si lente ? Ça fait 10 ans que la France maîtrise les technologies de la voiture électrique et aujourd'hui, on se fait dépasser par la Chine et vous verrez qu'un jour, à force de ne pas pousser en avant l'industrie automobile, c'est difficile, hein, les mutations industrielles, mais si on ne les accélère pas, un jour ou l'autre, on s'écroule et l'industrie automobile va s'écrouler si elle ne prend pas ce tournant.
Juste après Greta Thunberg, c'est Emmanuel Macron qui s'est adressé lui aussi aux autres chefs d'État et de gouvernement présents à New York, on l'écoute.
J'appelle chacun d'entre vous, pour qui ne l'a pas fait, à rehausser sa contribution au fonds vert. Donc je compte chacun sur vous. Des actes, des actes, des actes. On ne peut pas laisser notre jeunesse passer tous ces vendredis à manifester. On ne peut pas voir notre jeunesse dans l'état de souffrance, parfois d'émotion qu'on a vu tout à l'heure, et simplement dire on fait tout bien.
C'est le même Emmanuel Macron qui, quelques heures plus tôt, dans l'avion qu'il conduisait à New York, s'était laissé aller à quelques confidences, notamment à nos confrères de France Inter, disant au sujet des jeunes manifestants qu'ils aillent manifester en Pologne, il serait plus utile là-bas. Quel Emmanuel Macron vous retenez de ce sommet ?
Le second ? Pourquoi ? Ce qui est très intéressant. Non,
le second dans la chronologie.
Pourquoi ? Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été touché par le discours de Greta Thunberg. Il n'est pas resté indifférent, puisque dans un premier temps, il dit finalement c'est pas important les jeunes. Et quand il l'a entendu à la tribune des Nations Unies avec cette force qui émanait de cette toute jeune fille, il s'est dit non mais c'est vrai.
Mais c'est pas la première fois qu'elle dit ça. Il a découvert hier Greta Thunberg.
C'est la première fois.
Il a été converti hier par Greta Thunberg.
C'est la première fois qu'elle est devant les chefs d'État aux Nations Unies, qu'elle a ramassé son énergie et sa force en quelques mots extrêmement simples, extrêmement justes, qui font écho à ce que tous les 100 voix disent, comme je le disais tout à l'heure, à travers la planète et qui subissent ce dérèglement climatique et cette domination des pays industrialisés qui ne veulent pas remettre en cause leur mode de vie. Et par conséquent, il a été touché par ce message et il a renforcé son discours. Et ça, voilà, ça, on est dans un moment politique qui correspond à la vérité des moments politiques qui ne doivent pas s'éteindre ensuite une fois rentré à la maison.
Et
c'est
ça qui
est important.
On va donc avoir un président converti à l'écologie qui rentre de New York dans les jours qui viennent. Vous y croyez ?
Eh bien, en tout cas, s'il met en accord ses actes à son retour avec son discours, oui. Et en plus, il a déclaré, c'est nouveau aussi, qu'il fera en sorte qu'au niveau européen, il y ait un renforcement de l'exigence climatique. Puisque vous savez que là, justement, il y a des dissensions entre pays européens qui n'ont même pas réussi à se mettre d'accord, rendez-vous compte, sur la neutralité carbone en 2050. Même pas sur ce qu'on appelle le facteur 4, qui a d'ailleurs disparu du droit français. Mais vous savez qu'avait été voté, lorsque j'étais ministre de l'Environnement, si je puis me permettre, à la fois la diminution de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, parce que 2050, c'est très loin. Moi, je tiens beaucoup à ce qu'il y ait des échéances intermédiaires, sinon on ne fait pas grand-chose et on se dit c'est la génération suivante qui fera. Donc 2030 moins 40, et la neutralité carbone en 2050 était doublée du facteur 4, ça veut dire la diminution par 4 des émissions de gaz à effet de serre. C'est très important, parce que la neutralité carbone pourrait consister à ne rien faire, à replanter des arbres, en disant, ben voilà, on a fait la neutralité carbone.
Je vous interromps, Ségolène Royal, parce qu'il est 8h42 sur France Info, que théoriquement à 8h40, on s'interrompt quelques instants pour le rappel des titres de l'actualité, qu'on va reprendre après pour parler du tout dernier rapport du GIEC, si vous le voulez bien. 8h42, donc pardon pour le retard, voici Lauriane Delanoë pour l'essentiel de l'info de ce mardi matin.
9 enfants de djihadistes viennent d'arriver en France à l'aéroport de Roissy. Leurs mères respectives avec eux, 2 femmes qui viennent d'être placées en garde à vue. Parmi ces enfants, il y a des petits-neveux et petites-nièces, des frères Klein, des Français, voix de l'organisation État islamique qui sont morts en Syrie. Les salariés du privé et du public appelés à se mobiliser contre la réforme des retraites aujourd'hui. Le régime unique voulu par le gouvernement tirera tout le monde vers le bas, d'après la secrétaire confédérale de la CGT interrogée ce matin sur France Info. Des perturbations à la SNCF pour les TER, les Intercités, les Transiliens et certains RER. Un autre texte s'attire des opposants. Le projet de loi bioéthique arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale cet après-midi. Les députés vont débattre pendant 3 semaines, notamment sur l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Emmanuel Macron se veut médiateur entre l'Iran et les États-Unis. Pas besoin, répond Donald Trump. Après un échange hier soir avec l'Iranien Hassan Rouhani, le président français rencontre aujourd'hui son homologue américain en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies.
France Info. Et tout est plus clair.
Ségolène Royal, le GIEC publie aujourd'hui son nouveau rapport scientifique, cette fois sur les océans et les zones glacées de la planète. Renaud Dely.
Les effets du réchauffement s'accélèrent. Il y a d'ores et déjà certains experts qui envisagent une hausse de 50 cm du niveau des mers et des océans d'ici 2100. Ça pourrait aller plus vite et plus haut. Des zones habitées extrêmement importantes comme Hong Kong, la Nouvelle-Orléans à terme, New York, etc. pourraient être menacées par cette montée des eaux. Est-ce qu'il est trop tard pour réagir et freiner ces effets du réchauffement sur les zones glacées, les océans arctiques et antarctiques?
Il est presque trop tard. Il est presque trop tard. C'est pour ça ce qu'on disait tout à l'heure à la fois sur l'alerte et sur la volonté politique. On en a plus que jamais besoin. Et contrairement à ce qu'on dit ici ou là, je le répète parce que c'est simple et tout le monde peut s'y mettre. Et en particulier, il faut que les gouvernements appliquent tous l'accord de Paris sur le climat en arrêtant leur stratégie bas carbone. Ça fait compliqué, stratégie bas carbone. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de pollution par les transports. Donc, la révolution industrielle vers la voiture électrique ou la voiture à hydrogène, les transports par câble, etc. On a les solutions. Ça veut dire la révolution dans le bâtiment, et en particulier sur le choix des matériaux et sur l'isolation. Ça veut dire aussi la croissance verte, des emplois. C'est-à-dire, si on voit...
Mais vous dites c'est simple, c'est facile, il n'y a qu'à faire, mais il y a à peine plus de 2 ans, vous étiez encore ministre.
Oui,
vous avez participé à de nombreux gouvernements qui n'ont pas participé de cette stratégie de l'énergie
fossile. Figurez-vous que quand j'étais ministre de l'Environnement, nous tenions
la basculement sur la
nous tenions la stratégie bas carbone. Comment nous tenions la stratégie bas carbone? D'abord avec les tarifs de rachat des énergies renouvelables qui avaient permis un investissement puissant dans les énergies renouvelables. Ces tarifs ont été baissés, donc les investissements ont été stoppés. Ensuite, par la création des baisses d'impôts pour permettre aux particuliers de faire les travaux d'économie d'énergie, 30% de baisse d'impôts par rapport au coût de ces travaux. Ça a été cassé par le ministère des Finances.
Vous estimez que
ensuite,
depuis le début
les
du
territoires énergie positive. Ensuite, la reprise des autorisations de recherche des hydrocarbures. Total a fait un trou de 2 km de profondeur au large de la Guyane pour chercher du pétrole. Ça, je leur avais été interdit.
Et il y a eu un coup de frein, Ségolène Royal, depuis le début du quinquennat sur ces objectifs ou pas?
Mais bien sûr, il y a eu plusieurs reculs. Pourquoi il y a eu plusieurs reculs? Parce que le pouvoir du ministère de l'Environnement est passé au ministère des Finances, qui a une vision comptable.
Depuis le départ de Nicolas Hulot ou avant?
À la nomination de Nicolas Hulot, Nicolas Hulot a délivré les autorisations de permis de recherche d'hydrocarbures. Nicolas Hulot a remis en cause la baisse de la part du nucléaire. Nicolas Hulot a remis en cause le crédit d'impôt. Il a supprimé les territoires énergie positive qui permettaient aux territoires, même aux toutes petites communes.
Il l'a fait parce qu'Emmanuel Macron le lui a demandé. C'est de la faute d'Emmanuel Macron.
Il l'a fait parce qu'il y a des arbitrages. Qu'il faut savoir dans un gouvernement, c'est qu'il y a des arbitrages. Et si c'est le ministère des Finances qui reprend le pouvoir, il fait ce qu'il sait faire. C'est dans sa logique. Il fait de la réduction de la dépense publique sans penser que l'investissement dans la croissance verte, c'est une dynamique économique qui rapporte ensuite. Voyez ? Et quand le ministère des Finances supprime les baisses d'impôts pour les travaux d'économie d'énergie en disant que ça coûte 1 milliard, et je répondais, quand j'étais ministre, je dis non, ça coûte pas 1 milliard, ça rapporte 1 milliard, puisque ça crée de l'investissement dans les entreprises du bâtiment, qui ont dû, d'ailleurs, depuis cette suppression, licencier et supprimer des milliers d'emplois, notamment dans le secteur de l'isolation, du doublage des fenêtres, de l'isolation des combles, de l'isolation des murs, etc. Et donc, si vous donnez des moyens à ces entreprises d'investir dans les économies d'énergie, elles créent de l'activité, elles créent des emplois, elles font des profits, et donc elles payent des impôts et des cotisations sociales. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'investissement dans la croissance verte, ça ne coûte pas, comme dit le ministère des Finances, ça rapporte. Et si on comprend cette logique-là, et si on comprend aussi que ne pas agir, ça coûte plus cher qu'agir, à ce moment-là, on se dit qu'on peut réconcilier l'écologie et l'économie. Et donc, mon vœu le plus cher, c'est que à son retour de New York, le président Emmanuel Macron, compte tenu de son discours et de son engagement qui est sincère, puisse reprendre le pouvoir
qu'il a perdu.
Que les arbitrages, non, qu'il a laissé au ministère des Finances, que les arbitrages remontent à son niveau. Parce que c'est à ce niveau-là, parce que c'est difficile, que les arbitrages se jouent.
Renaud Dely.
Il y a un autre texte, une autre réforme portée par le chef de l'État et par le gouvernement qui arrive aujourd'hui en débat à l'Assemblée nationale. Oui. C'est l'examen de la révision des lois bioéthiques et en particulier l'extension de la PMA, de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Il y a un certain nombre de réserves qui se font entendre sur cette réforme. Pas toutes, d'ailleurs, par des personnalités ou des élus classés à droite. C'était le cas notamment sur la question de la filiation de la philosophe Sylviane Agacinski, qui était l'invitée de France Info ce matin.
Il s'agit de savoir pour le législateur qu'est-ce qu'on institue comme filiation légale pour un enfant et est-ce qu'il ne va pas se sentir né dans une procréation, un mode de procréation et de filiation qui sera pas égal à celui des autres enfants qui, eux, peuvent toujours effectivement retrouver leur père ou qui, normalement, ont un père et une mère.
Est-ce que vous partagez ces réticences sur l'extension de la PMA à toutes les femmes ?
Non, franchement, écoutez, regardez dans quelle société nous vivons. D'abord, nous parlons d'entre 1000 et 2000 naissances sur 700 000 naissances. Ça, c'est le premier point. La seconde chose, c'est que les pays voisins de la France pratiquent la PMA. Donc aujourd'hui, les femmes vont en Belgique ou en Espagne. Donc il n'y a pas eu de drame en Belgique ou ni en Espagne. C'est la seconde chose. La troisième, c'est que le vrai problème dans la société française par rapport aux enfants, c'est d'une part les familles monoparentales qui n'ont pas de père non plus, où les pères abandonnent leurs enfants, disparaissent, etc. Ça, on ne s'en occupe pas, personne n'a posé cette problématique-là. Ça, c'est un vrai problème. Et la seconde chose, ce sont les divorces violents qui se passent très mal. Et ça qui concerne des milliers d'enfants, parfois un enfant sur trois ou sur quatre. Et ça, c'est le vrai problème fondamental de société par rapport à la paternité.
Ça signifie, Ségolène Royal, que donc, vous auriez, pardon, voté cette loi sans aucune réserve, y compris par exemple sur la fin de l'anonymat pour les donneurs.
Oui, j'aurais voté cette loi. Sur la fin de l'anonymat, il faut faire très attention parce que il ne faut pas décourager le don. Donc il faut trouver des solutions, peut-être en discuter avec eux, parce qu'aujourd'hui il y a du don de sperme, mais si demain il y a la levée de l'anonymat, peut-être qu'il n'y aura plus de don de sperme. Et donc il faut bien faire les choses par rapport à ce sujet-là. Et pour avoir levé le secret sur les enfants nés sous X, hein, quand j'étais ministre de la Famille, j'avais mis en place cette commission d'accès aux origines. Je comprends toute la complexité de ce sujet. Mais si l'on veut poser le problème de la paternité, il faut la poser dans la société, dans son ensemble, c'est-à-dire les familles monoparentales, comme je l'ai exprimé tout à l'heure. Et puis surtout, la question du soutien aux couples qui se séparent, qui divorcent. Je rappelle également que ça va jusqu'à la mort, puisqu'on a plus de 100 femmes aujourd'hui qui sont assassinées encore récemment sous les coups du conjoint. Et là, y a quand même peu de réactions par rapport à ça. Or, des enfants qui voient leur mère assassinée par leur père, je pense qu'il n'y a pas plus terrible dans une société. Donc prenons aussi à bras-le-corps ces sujets-là.
Ségolène Royal, vous restez avec nous. On va parler d'immigration dans quelques instants. Et puis vous nous direz si vous serez candidate en 2022, parce qu'on n'a pas compris l'ensemble de vos dernières déclarations sur cette question. 8h51, je tente ma chance à l'avance. Vous avez vu. D'abord l'info avec Lauriane Delanoë.
Des enfants de djihadistes confiés ce matin à l'aide sociale à l'enfance. Ils sont 9 qui viennent d'arriver en France. Atterrissage à l'aéroport de Roissy. D'après nos confrères de France Inter, certains sont des petits-neveux et nièces des frères Klein. Ces deux Français devenus voix de la propagande de l'organisation État islamique. Ils sont morts en Syrie l'hiver dernier. Ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Levée partielle de l'anonymat pour les donneurs de sperme. Ou encore conservation des ovocytes. Voici quelques-unes des mesures du projet de loi bioéthique qui seront débattues dès cet après-midi à l'Assemblée nationale par tous les députés. Les discussions s'annoncent houleuses pendant 3 semaines. Un ancien garde des Sceaux devant la Cour de justice de la République, Jean-Jacques Urvoas, le socialiste, comparaît à partir d'aujourd'hui pour violation du secret professionnel. En 2017, il avait transmis des informations aux députés, les Républicains Thierry Solaire, député alors visé par une enquête. À la CGT, appel à la grève, des perturbations à la SNCF. Aujourd'hui, contre la fin des régimes spéciaux de retraite. Conséquence, 2 trains intercités sur 5 seulement en circulation et la moitié des Transiliens en Île-de-France.
France Info. et tout est plus clair.
Ségolène Royal, Emmanuel Macron a-t-il raison de remettre l'immigration au cœur du débat politique en France ?
Mais ce sujet n'a jamais disparu du débat politique. Donc je ne sais pas pourquoi on lui reprocherait d'empoigner ce sujet.
La dernière loi a été adoptée il y a tout juste un an et demi. Voilà, donc on ne peut pas dire aujourd'hui pourquoi.
Donc on ne peut pas dire que ce débat a disparu.
Quand il demande à ses troupes de regarder la réalité en face, quand il dit « attention, si on ne parle pas d'immigration, on devient un parti de petits bourgeois », je simplifie un peu ses propos, il a raison.
Oui, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il y a une colère dans certains quartiers contre une immigration clandestine qui ne paraît pas maîtrisée et qui pèse sur les catégories les plus fragiles, hein, puisque ce sont dans les quartiers déjà qui ne sont pas favorisés. Et donc ce problème-là, en effet, doit être regardé au vu de l'augmentation des migrations. Et d'ailleurs, c'est aussi un sujet qui est à relier à la question climatique, puisque vous savez, si rien n'est fait, il y aura plus de 200 millions de réfugiés climatiques en 2050. Et donc, il faut bien comprendre que la lutte contre le réchauffement climatique et contre la pollution, c'est aussi un élément clé de stabilisation et de réduction des flux migratoires. Mmh. Et la seconde chose, c'est que la diplomatie, par rapport à tout ce qui se passe à l'est de l'Europe, et en particulier les initiatives d'Emmanuel Macron par rapport à l'Iran, sont absolument cruciales. Pourquoi ? Parce que quand les États-Unis d'Amérique déclarent tous les jours un nouveau conflit sur la géostratégie à l'est de l'Europe, ce ne sont pas eux, les États-Unis d'Amérique, qui sont exposés aux migrations liées aux guerres, c'est l'Europe. Donc c'est trop facile d'aller agiter, renforcer des sanctions qui mettent à genoux des économies comme celle de l'Iran et qui provoquent ainsi une remontée du terrorisme, parce que chaque fois que vous mettez à genoux un pays économiquement, vous encouragez les franges les plus extrémistes de la population, vous provoquez des révoltes de la misère et des révoltes de la pauvreté, et c'est l'Europe qui est directement impactée par ces migrations liées aux guerres. Et donc la question diplomatique et la volonté d'Emmanuel Macron de gérer ces problèmes-là, d'apaiser ces problèmes-là, de tenir aussi les pulsions guerrières des États-Unis d'Amérique, ça me paraît quelque chose d'essentiel et de crucial. Et quand les États-Unis d'Amérique renforcent les sanctions contre l'Iran, on aimerait bien que l'Europe aussi réagisse par rapport à ce sujet-là et appuie l'effort diplomatique du président français.
Renaud Dely.
Vous avez évoqué l'exaspération de certaines classes populaires dans certains quartiers sensibles face à une immigration mal maîtrisée ou immaîtrisée, ce que vous avez dit à l'instant. Est-ce que vous seriez favorable à l'instauration, c'est une piste qui a été évoquée par le chef de l'État, de quotas annuels pour les migrants économiques, des quotas qui seraient débattus au Parlement ?
Ça me paraît évident. C'est évident. Et la grande difficulté, je vais vous dire...
Il faut fixer chaque année des quotas par nationalité.
C'est évident. Ça, il faut que le Parlement en discute. On peut pas schématiquement régler cette question-là. Et d'autre part, il y a un autre problème qui est celui des migrations des personnes diplômées qui vident leur pays d'origine. Donc, il faut trouver des systèmes pour que aussi s'il y a des migrations de cerveau, comme on l'appelle ça, c'est-à-dire des gens qui sont formés dans la médecine, dans l'informatique, etc., et qui vident les pays d'origine, il faut des partenariats de co-développement pour éviter aussi d'absorber dans les pays les plus fragiles l'élite formée, l'élite diplômée. Vous voyez, donc il y a aussi une migration de diplômés, et ça c'est un problème par rapport aux pays d'émigration qui perdent les jeunes qu'ils ont formés parfois en mettant en place des moyens financiers importants.
Ségolène Royal, pardon de vous ramener à des questions plus terre à terre, mais le dernier sondage Odoxa publié ce matin pour nos confrères de France Inter vous donne comme la personnalité politique préférée à gauche. Vous avez
c'est une bonne nouvelle.
Je vous l'apprends visiblement. Vous avez doublé Jean-Luc Mélenchon pendant l'été. Qu'est-ce que ça vous fait ?
Écoutez, vous savez, je prends les sondages toujours avec
pour ceux qui nous écoutent à la radio, on ne voit pas forcément le grand sourire qui a précédé votre silence.
Non, écoutez, on tape tellement sur les politiques, on dit tellement d'horreur sur les personnalités politiques que quand de temps en temps, il y a quelque chose d'un peu gentil qui est dit, on ne va pas s'en plaindre.
Vous savez qui est la personnalité politique de droite préférée des Français ?
Non, vous allez me l'apprendre.
Quelqu'un que vous avez affronté, c'est Nicolas Sarkozy.
Oui. Bon.
Et alors
j'ai cru que vous alliez aller plus à droite.
Non. Est-ce que ça vous donne des envies pour la prochaine présidentielle ou pas ? Et sur quels critères vous pourriez être candidate ?
Je pense que ça ne se pose pas en termes d'envie, vous voyez, mais plutôt en termes d'opportunité.
Et puis, alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez candidate?
Il faut une occasion.
J'ai aucune envie personnelle, je vous rassure, compte tenu de ce que ça représente aujourd'hui l'engagement en politique, c'est très difficile. Oui, c'est ça, il faut que savoir si à un moment ou pas on peut être utile pour son pays, pour continuer à porter des exigences, des actions, de l'engagement. J'ai une femme d'engagement, hein. je ne reculerai pas devant mon devoir, si j'ose dire. Et quand je vous le dis comme ça, ça paraît étrange, mais c'est exactement comme cela que je le sens.
Aujourd'hui, à gauche, vous voyez qui pour y aller?
Je ne suis pas partie dans le privé. Ouais.
Qui s'impose aujourd'hui à gauche?
Mais à gauche, c'est peut-être pas forcément gauche-droite, vous voyez. Moi, je me sens pas forcément... mon itinéraire, je ne renie jamais mon itinéraire. Je suis femme de fidélité, je ne renie pas mon itinéraire politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question du féminisme, de la place des femmes est absolument cruciale pour l'équilibre global d'une société, d'une planète. La question environnementale, avec des gens qui ont fait leurs preuves sur la capacité d'action... Et je situerais bien sûr à gauche, mais plus dans un mouvement, disons, démocrate. Mmh. Vous voyez, je me sens proche d'un Barack Obama, par exemple, en termes de valeurs par rapport à la planète. Mais une fois de plus, je ne demande rien, mais je suis attentive à la situation politique. Et je verrai le moment venu ce qui se passe.
C'est pas oui, mais c'est pas non plus, si je résume en quelques mots ce que vous venez de nous dire. Merci beaucoup Ségolène Royal d'être venue ce matin sur France Info. Dans une minute, il sera 9h.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.